Et néanmoins, il y a même une possibilité pour lui de transformer ses guérouchines en chérouchines, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose à faire pour pouvoir revenir quand même. Le précepte d'Hachem, c'est que vous pouvez revenir quand même. Et ce que Adam Arishon avait à faire, c'était de garder le s'appelle Derer Etzachayim, littéralement le chemin de l'arbre de la vie. Il y avait, vous savez bien, entre autres, il y avait dans le Gan Eden, il y avait cet arbre de la connaissance bien et mal dont il fallait ne pas manger jusqu'au Shabbat. Et puis il y avait un autre arbre qui s'appelait Etzachayim. Et là, dans la Torah, quand on nous rapporte, on ne peut pas dire, il ne faut pas que Adam en vienne à manger dans l'état où il est de ce Etzachayim, parce que ce serait absolument désastreux, on ne va pas entrer maintenant dans le détail. Donc, il n'a plus accès directement à Etzachayim, mais il doit fabriquer le derech, le chemin pour arriver à ce Etzachayim. Il y a un chemin qui permettra d'y arriver et de pouvoir consommer ce Etzachayim sans que ça fasse des dégâts. Et du coup, quand les pays d'Israël ont été exilés à la suite de la destruction du premier Beth Amikdash, ça veut dire qu'ils n'étaient exilés que pour 70 ans. Et la question se pose, pourquoi 70 ans seulement, ça peut paraître comme ça, alors que nous sommes encore dans l'exil du deuxième Beth Amikdash depuis fort longtemps. C'est qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, c'est Mara qui parle, Akadosh Baruch Hu a eu peur, en quelque sorte, que les Bnei Israël dérivent complètement. Il n'y avait pas encore de Talmud Babli. Il n'y avait pas encore de Talmud à cette époque. Et donc, les Bnei Israël pouvaient très facilement, quasiment oublier complètement les Mitzvot, ce n'était pas si loin, c'était pas le cas. On lit ce que Ezra a dû faire pour eux. Ils n'avaient même plus accès à la Torah à la Kodesh. Il a fallu leur expliquer en araméen, avec l'écriture en araméen, toute une histoire, au bout de ces 70 ans. Donc, Akadosh Baruch Hu a eu peur que l'Israël se dissolve littéralement. Et c'est la raison pour laquelle il a permis l'existence d'un deuxième Beth Amikdash, qui permet de fabriquer quand même un clan Israël, même si au fond il n'y avait pas vraiment de bon ciment. Deuxième Beth Amikdash, il y a déjà de la Torah orale, bien que le Gaon de Vilna dise très sévèrement au deuxième Beth Amikdash, les Bnei Israël ont étudié la Torah, mais il dit dans Eved Shlema, il dit que Toratam lo haita ela bishvil lasot lahem shem. Et la Torah qu'ils ont étudiée au deuxième Beth Amikdash du Gaon de Vilna, c'était uniquement pour se faire un nom. C'est étonnant parce qu'ils utilisent le même terme que celui que la Torah utilise pour décrire la démarche de la construction du Migdal Babel, d'un sauf la Hachem, se faire un nom. C'est-à-dire se faire un nom et ne pas être dépendant d'Hachem, en quelque sorte. Avoir son propre chef, pas être dépendant de Hachem. C'était bon, ça c'est ce que voulaient les gens, la construction de la tour de Babel. Mais le gars utilise le même terme, d'un sauf la Hachem, pour qualifier l'étude de la Torah déjà en deuxième Beth Amikdash, où on est, le deuxième Beth Amikdash, je vous rappelle, au milieu du deuxième Beth Amikdash, il y a eu Hanouka, C'est-à-dire il y a eu un commencement de Torah chez Balpé. Donc il y a quand même quelque chose, si vous voulez, mais le gars dit, c'était pas grand chose, ça n'avait pas grande valeur. C'était totalement pour se faire un nom, c'est tout. Donc le deuxième Betamikdash était là pour éviter que le clan Israël se dissolve littéralement. Et donc évidemment, quand les Bnei Israël ont fauté et qu'ils ont cassé l'unité du clan, ça devient gravissime. Et de la même manière qu'il y avait un chemin à fabriquer le Derech Estraïm pour Adam Arishon, quand il a été chassé du Gan-Eden, il y a aussi un chemin pour les Bnei Israël qui ont été chassés à la suite du destruction du deuxième Beth Amikdash, qui est aussi un chemin Derech Etz Hachayim, mais le Derech Etz Hachayim, en question, il a été enlevé de la circulation, et on sait très bien que ce qui est Etz Hachayim, Samachazikimba, comme on sait, c'est la Torah. C'est-à-dire, en fait, le Hachayim, il est remplacé par la Torah. Alors, on va essayer de voir un peu plus avant ce dont il s'agit. Le monde, c'était pour avoir une résidence dans ce monde-ci, dans le monde d'en bas. C'est-à-dire, il voulait pouvoir résider, c'est-à-dire que la Shrina soit présente dans le monde, dans la matière, dans ce monde-ci. Et la situation idéale, celle du départ, c'était la présence divine dans le Gan Eden. La situation où Hachem est présent dans le Gan Eden, c'est ce qui prévalait avant la faute d'Adam Arishon. Quand Adam Arishon a fauté, la Shrina s'en est allée, et donc il n'y a plus de présence divine dans le monde d'en bas. Donc, évidemment, il y a une présence divine dans le monde supérieur, mais pas de présence divine dans le monde d'en bas. Et donc, on sait, Chazal décrit ce qui s'est passé, il y a une dégradation, c'est-à-dire que la Shrina, la présence divine, s'est éloignée au fur et à mesure des générations, jusqu'à ce qu'elle arrive au fameux septième ciel. C'est-à-dire, le septième ciel, c'est la situation où Hachem est au plus loin du monde. Donc c'est la situation la plus désastreuse possible. Et le chemin du retour, du septième au sixième, etc., ça a été justement le travail des Avot. De 7 à 6, c'est Abraham Avinu, de 6 à 5, c'est Yitzhak Avinu, etc., jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui justement permet à la présence divine de revenir dans le monde, il va accepter de résider parmi les Bnei Israël avec le Mishkan. Et donc la boucle est en quelque sorte bouclée, mais grâce au Avot, effectivement, il y a cette résidence, comme je vous ai dit. Ensuite, la suite du Mishkan, évolué, et le Beth Amikdash a remplacé le Mishkan, on pense dans l'histoire. Chazal disent qu'il y avait donc deux fautes dans c'est la faute d'Adam Arishon. Les hommes disent, c'est rapporté dans le Maral, dans le Shla, dans le Gaon. Alors, il y avait trois fautes, les trois fautes habituelles enfin, qu'on connaît, Avodah Zarah, Kudamim et Gilui Ariot. Et quand les Avodah ont commencé à faire redescendre la présence divine dans le monde, ça consistait à réparer ces trois fautes en fait. Et comment est-ce qu'on ça se réparait? Ça se répare grâce aux midot, grâce aux qualités de cœur et de corps et de avot. C'est pour ça que je vous ai dit en entrée que le premier Beit HaMikdash, il était là, il écoute, à avot à l'époque. Quand les Israël ont fauté avec les trois mêmes Averot, donc la présence divine n'a plus existé dans le Beit HaMikdash, le Beit HaMikdash a été détruit évidemment parce qu'il n'avait pas lieu d'être s'il n'était pas la résidence de Hachem. Donc les Israël ont fait la même chose qu'à la Marchon. Ils ont chassé la présence divine en se conduisant de cette manière, chassé du monde. Tout ça, c'était donc, comme on a vu, dans le premier Beit HaMikdash. Dans le deuxième, il n'y avait plus de ce qu'on appelle le Zechut Avot. Le mérite des Avot avait disparu, il a disparu. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est plus Zechut Avot. On a la résultante de ce qui s'appelle Brit Avot. Alors, beaucoup a fait une alliance avec les Avot. Et cette alliance-là, évidemment, alors, beaucoup ne rompt pas une alliance. Donc, cette alliance-là, elle n'est pas rompue et on vit sur cette alliance. Et donc, les Bnei Israël, à eux à faire leur part de l'alliance. Alors il faut pour lui, il est là, ils n'auront pas l'alliance. À nous de faire notre part, donc dans une alliance, il y a toujours deux teneurs, chacun doit faire sa part. Et comme il a dit, les Néphènes n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, et le Silatrinam, et donc ça, la part d'Israël n'a pas été faite. Donc, d'après le Maharal, la conséquence, Maharal se. Pas pour lui, mais on a la même chose dans le Gaon, enfin, il parle la même chose en fait, que. Les deux niveaux, les deux Beit HaMikdash, ce sont des niveaux qu'on connaît par ailleurs. Il y a un niveau qui s'appelle Aruta de Leila, qu'on appelle l'éveil d'en haut. Ça, c'était la caractéristique du Beit HaMikdash, du premier Beit HaMikdash. Le deuxième Beit HaMikdash devait être commencer par elle, Vitaruta de l'Etata, c'est-à-dire éveil d'en bas, ça veut dire. C'est un terme, Vitaruta de l'Eila, que vous connaissez probablement de Pessah. Pessah, on dit que c'est Vitaruta de l'Eila, c'est l'éveil d'en haut, parce qu'à Pessah, le Nixel était quasiment, presque totalement passif. C'est Hachem qui a tout fait. Même les deux mérites qu'on avait, sortir de Mitzrayim, à savoir la Mila et le Korban Pessah, c'est Hachem qui nous a soufflé ces mitzvot. On n'a rien fait par nous-mêmes pour sortir de Mitzrayim. La sortie d'Égypte, c'est à retard complètement de l'Ela. Et ensuite, commence un travail où les hommes sont appelés, les Israéliens sont appelés à faire quelque chose. Hachem voudrait qu'on fasse tout. Hachem voudrait qu'on prenne le relais. D'après Maharal, quand on dit que le premier Beit HaMikdash était reposé sur Kitarota de Leïla, son réveil d'en haut, ce qui veut dire donc que comment c'est le réveil d'en haut, c'est ce que je viens de vous dire, c'est en fait le Zkout Avot, le mérite des Avot. La chambre du Maharal, on peut penser qu'il n'y avait pas du tout de Shrina, de présence divine, un peu la chambre de la Gemara même, dans le deuxième Beit HaMikdash. Mais Rabbeinu Bechaye dit, c'est pas qu'il n'y avait pas du tout de Shrina dans le Beit HaMikdash HaSheni, dans le deuxième Beit HaMikdash. C'est là chez l'Oshar Tasham Tadir, le mot Ben Kishon. Et là, prophète, c'est-à-dire la présence divine, elle était là, en suspension autour, au-dessus du Beit HaMikdash, deuxième Beit HaMikdash, et de temps en temps, les Bnei Israël méritaient qu'elle descende et qu'elle soit plus présente. Puisque, on va expliquer un peu plus, puisque ce deuxième Beit HaMikdash dépendait du mérite des Bnei Israël, c'est leur part. Donc, cette Ashrat Ashkina, bien sûr, elle dépendait du niveau des Bnei Israël. Comme Taruta de Tata, ça veut dire un merveille d'en bas. Faites quelque chose pour mériter qu'il y ait cette présence divine. Il faut encore expliquer encore un peu plus, peut-être, cette différence entre les deux Beit HaMikdash. La Géoula du deuxième Beit HaMikdash, c'est-à-dire le fait qu'on ait plus droit au deuxième Beit HaMikdash, c'est que le Beit HaMikdash était, le Yarodash dit comme ça, c'était une Pekida, c'est-à-dire c'était un dépôt, c'était en dépôt chez nous, il n'était pas vraiment à nous, mais c'était en dépôt. Ça va beaucoup. En fait, fait des dépôts. Au sens où il arrive, on donne à quelqu'un de l'énergie. Avec cette énergie, il va pouvoir faire des mitzvot qui vont lui amener des mérites, en fait, d'avoir fait ces mitzvot. Mais Hachem a donné en avance, en quelque sorte, à crédit. Je te donne déjà, en quelque sorte, l'énergie que dont tu ne devrais bénéficier que quand tu auras fait la mitzvah, pour que tu puisses faire la mitzvah. C'est la notion de Pekida. Mais le galout a été tel que, bon, ça n'a pas marché vraiment. D'un autre côté, le Chesed d'Hachem, qui n'est jamais misé, ça a été de nous promettre Shelo Tishtakar Torah Mi'Israël. Parce que la Torah, c'est la condition de perfection pour le Bnei Israël. Donc on n'aura jamais, il n'y aura jamais d'oubli complet de la Torah. Dans le galout, le galout qui a suivi la destruction de Beit HaMikdash des 70 ans de Babel, on a presque abandonné la Torah. On l'a dit. Abandonner la Torah, ça nous a mis un peu dans la situation où étaient les Israélites en Égypte. Le Rambam dit qu'en Égypte, durant le Galout, on a quasiment tout oublié de l'enseignement d'Abraham. Seul la tribu de Lévi s'est souvenu de certaines choses. Et les autres ont complètement oublié, tombé dans l'idolâtrie complète. Lorsque les Israélites sont revenus du Galout, du premier Galout, ils ne savaient pas ce qu'était la mitzvah de Souka. Ils ne savaient pas réellement ce qu'était Shmirat Shabbat. C'était à ce point mélangé avec c'était les gens en Babel, c'était un mariage, tout ce que vous voulez. Ils ne savaient pas du tout. Complètement oublié qu'il y avait un interdit de se marier avec des idolâtres, en particulier avec Amon et Moab, comme dans le Sefer Nechemia, on en parle plus tard. Donc, Hachem, qui tire le ficelle, évidemment, il nous a promis. Que, effectivement, la Torah elle ne sera plus jamais complètement oubliée. Et quand Bagavou va juger que le tikkun, en fait, la réparation de cet oubli, cette possibilité d'oublier de la Torah, Tikkun était là, il n'y avait plus de possibilité d'oublier complètement la Torah, alors il nous a exilés. Et on paye aussi, dans cet exil, une partie de l'exil qu'on n'a pas payé à la suite de la destruction du premier Beit HaMikdash. On n'a pas payé parce que c'était trop dangereux. Comme je vous ai dit, le clan Israël risquait de disparaître. Pour qu'il ne disparaisse pas, il a fallu garantir, il a fallu les remettre, les ramener. Il a fallu leur donner quelqu'un comme Ezra. Alors elle dit que si la Torah n'avait pas été donnée par Moshe Rabbeinu, elle aurait été donnée par Ezra, pour avoir une idée de la grandeur du personnage. On est Ezra qui a enseigné, réenseigné la Torah. Bon. On nous a, encore une fois, je répète, le deuxième Beit HaMikdash a été donné comme Pekida pour permettre de sauver les meubles en quelque sorte. Donc ce n'est pas vraiment une gueule complète. Ça le dit sous la forme. Les gens qui avaient vu le premier Beit HaMikdash, ils pleuraient en voyant le deuxième. Bien vu que c'était simplement une espèce de. Bon, un remplaçant très inférieur à ceux qu'il remplaçait. Dans les Tshuvot de Tshuvot Yaakov, il écrit. Beaucoup des anciens de Rishonim ont écrit que Binyan Baït Sheni lo haya geoula shlema. Effectivement, la construction du deuxième Baït n'était pas une vraie geoula, c'était un vrai geoula, une vraie libération. Le fils de Béret, Galout, Baït Rishon, Loya, Daïd, Seder, Talmud Babli, comme il n'y avait pas encore le Talmud Babli, de telle sorte que, en très peu de temps, 70 ans, ce Galout Babel, ils ont oublié Tamar Mitzvot, comme ceux qui me le disent, que je vous ai déjà cité, n'importe qui, une fois qu'Yakov le dit, ici c'est un des grands proscrits. Et à Chacha, quand on se beaucoup, le bal, il se fout, la parole n'a pas eu peur, puis ils oublient complètement tout. Et ce soir, nous battons les traits de côte, ce soir, il est parable. Galotam, il dira une commande. Alors, quand vous voulez la sortie du Galout de Babel, il les a ramenés en Eretz Israël. Et à ce moment-là, il fera beau. Après Israël, un chef de Stergola, c'est l'époque du chef de Stergola, c'est l'époque de Mordechai, si vous voulez, qui est le Shimon HaTzadik. Ce sont les gens qui ont mis en place tout le Talmud Babli, enfin, le cheval du Talmud Babli. La Tfila, c'est les gens d'un chef de Stergola qui l'ont mise en place, c'est la prière comme telle qu'on l'a pris aujourd'hui. Anacher, Galou dit à toi, à l'Isnée à Makom, Shelo Yishakar, Chaz Beshalam Torah, Mithiem, Meata Gadola. De sorte que Hachem soit sûr que la Torah ne sera jamais oubliée. Il explique parce que pour lui, Talmud Babli, c'est à la porte sous porte, c'est à la porte qui sont très claires. Et maintenant, voilà, on a tout ce qu'il faut pour supporter les galouillottes. Et le Négliotop, qui est un autre rapport important, il dit Behemet, Adain lo nitaru, le galout rishon, mais Avonot shebiyadam. Le premier exil n'a pas purifié les Bnei Israël des fautes qu'ils avaient faites. On s'est retrouvé à l'époque du deuxième Beth Amikdash, mais on n'avait pas réparé les fautes qui avaient entraîné la destruction du premier. Ça veut dire que le galout dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est vraiment la suite de la destruction du premier Beth Amikdash. Bon, est-ce que ça n'a pas été réparé? Deuxième Betamigdash, c'était Tekida, en dépôt, quelque chose, une avance qui nous a été faite. On essaie de, justement, d'être plus fort et de pouvoir résister au galout. La conséquence, nous sommes encore dans le galout consécutif à la destruction du premier Betamigdash. Bien sûr, c'est évident que la Pida, le dépôt, était le deuxième Beth Amikdash, ne devait pas durer uniquement c'est ce qu'elle a duré, c'est-à-dire les 420 ans. Parce qu'à cause que vous savez qu'à la fin de ce temps, donc, si vous voulez, ça ne devait pas durer au sens. Donc vous savez que ça ne devait pas durer éternellement. 420 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour les Bnei Israël pour se construire et être capable de supporter le galout sans que la Torah soit oubliée. Donc les choses dépendaient de nous. On aurait pu bien faire en quelque sorte. Si on avait fait ce qu'il fallait, il n'était pas nécessaire de repartir en galop. Parce qu'on pouvait, on avait une avance, on aurait pu nous donner une avance, et on aurait pu construire avec ce qu'il nous a donné en avance et faire en sorte qu'on répare des. Qui n'avait pas été réparé dans le premier exil, mais pas par un exil. En appliquant la Torah et en se construisant en peuple, en fait. Ça n'a pas fait, ça ne s'est pas fait, les Israël n'ont pas fait. Donc, comme le dit Maharal, ce deuxième Beth Amikdash qui ne tenait que grâce au mérite d'Ibn Israël dépendait de Knesset Israël elle-même, en fait, pas de Soudarot, évidemment, ça n'a tenu que tant que les Bnei Israël ont bien voulu que ça tienne. C'était, je me répète, Itaruta de l'Etata, c'est-à-dire le Sroud d'Israël, et malheureusement, il n'a pas été suffisant. Mais le deuxième Beth Amikdash, en fait, il a été perdu parce que les Bnei Israël n'ont pas fait le travail d'unité. Au contraire, ils ont fait la synagogue, c'est qu'il n'y avait plus de peuple. Maran, il dit ça, il dit encore un peu plus directement, dans quel cas vote, le Rav Zakkai avait demandé à ses élèves, et c'est où d'ailleurs qu'il chara. Quel est le chemin droit que l'homme doit choisir? Ses élèves, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, donnaient des réponses. Et Rabbi Elazar a dit lève-toi, un bon cœur. Alors, le Rabbi Zakkai a dit, voyez, Ani est divré Elazar ben Aaron. Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar ben Aaron. C'est Bichlal Dvarav divrechem. Tout ce que vous avez dit, vous, Rabbi Elazar, Rabbi Shmuel, ça c'est très bien. Mais ce que dit Rabbi Elazar ben Aaron, ça contient tout ce que vous avez dit. Il leur a demandé quel est le chemin qu'il ne faut pas prendre. Ils ont répondu, toujours, il a répondu, avant de donner son explication, lui il a dit le chemin qu'il ne faut pas prendre, c'est l'être là. Là-dessus, le a dit je vois dans ce que je préfère la réponse de Rabbi Benaror, parce qu'elle contient tout ce que vous avez dit par ailleurs. Le Meiri explique cette Mishnah. Ezoui der Tova chez Baboa Adam, c'est-à-dire, quel est le chemin qui pourra être le Shoresh, la racine de toutes les bonnes midot. Toutes les bonnes midot, pour les bonnes midotes, il faut trouver laquelle est la plus importante, et à partir de celle-là, on va pouvoir se construire, on va construire les bonnes midotes. La bonne mida, c'est l'Eftor. Et la mauvaise, c'est l'Eftor. Maral. L'Eftor, c'est celui qui veut le bien de l'autre. Et même quand il voit quelque chose chez l'autre, chez Oura, ou d'Anton le Kavzi, il le juge avec un préjugé favorable. Tout ça parce qu'il veut le bien de l'autre. Donc il le juge positivement, aussi positivement que possible. Au contraire, évidemment, l'Evra, celui qui est systématiquement dans le Travero, le cas Prova. dès qu'il peut interpréter la conduite de l'autre, il interprète de façon à ce que l'autre apparaisse comme quelqu'un de mauvais. Donc Rabbi Yochanan Zakkai a dit que cette midala, Leftov, elle contient les autres. Toutes les autres bonnes midot. Et Levra contient toutes les mauvaises midot. Alors le Maharal dit, Mishi yesh lo Leftov, nichlelu ba bo pardon, kol la shlemut. Et le Baal Levra, il est kulora. Donc ça veut dire, effectivement, que les Minotobot, ça peut se résumer en Levtov, c'est-à-dire vouloir le bien de l'autre. Et donc ça contient tout ce que les autres ont dit, en détail. La Sinat Chinam est incluse évidemment dans le Levra, puisque le Levra contient toutes les mauvaises midot. Du coup, le Maharal explique la destruction du deuxième Beit HaMikdash. Yayotse minamida haraa zot sinat tabriot, comme Moshe Baal Lev Tov ohev et tabriot, hafetz betovatam. Celui qui a un bon cœur, il aime les gens, il veut leur bien, il les juge positivement. Donc pour celui qui a un lève ras, c'est exactement le contraire, donc. Et ta chair, chalak libam be sinat chinam, שהיו ביניהם יתבטל כוח זה מה שהם עם אחד הוא שם עם אחד זה הייתי אדולה ואת המקדש שלנו כתלטוי זה בואו זה אקסילה סוסה סת Ce lèvera, c'est ça. Enfin, que l'Ebné Israël n'ait plus été ce fameux Am Echad. C'est toute notre raison d'être. C'est la parole de Nantes, ce qui est écrit dans les filines d'Akadosh Baruch Hu. En parallèle avec ce qui est écrit dans l'autre filine à nous. Akmar a dit dans l'autre filine à nous, il est écrit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dans les filines d'Akadosh Baruch Hu, il est écrit Mikya Ancha Israël Goy Echad Ba'aretz. Ce Goy Echad. C'est-à-dire unique et uni, véritablement un. C'est ce qu'Hachem dit. Je veux dire ce que nous sommes, dire quelque chose de fondamental sur le plan d'Israël. Quelque chose qui est en fait l'expression de l'intériorité du plan d'Israël. Am Echad. Avec la Sinat Chinam, il n'y a plus de Amécha. Il n'y a plus d'Amécha dans les cœurs. Il n'y a un massif de gens. Ce qu'on était avant d'arriver au Sinaï. Les Israël qui sont sortis d'Égypte n'étaient pas un peuple. Dans les différentes étapes dans lesquelles ils sont passés, la Torah dit. À chaque fois, ils campèrent, ça veut dire, ils ont campé, pluriel. Au pied du Sinaï, c'est marqué, le clan Israël, Israël a campé. Ils ne sont devenus un peuple qu'au pied du Sinaï. C'est pas très clair. Est-ce qu'on est devenu un peuple pour pouvoir recevoir la Torah? La Torah ne pouvait être donnée qu'à un peuple et pas à des individus. Ou bien est-ce que on a reçu la Torah quand on a été capable d'être un peuple? Et quoi qu'il en soit, à la destruction, au moment de la destruction du deuxième Beth Amikdash, nous ne sommes plus un peuple. Et tant qu'on n'aura pas réparé cette sinatrina, c'est une illusion, nous ne sommes pas un peuple. C'est assez énorme, mais il faut laisser résonner en nous ce que ça veut dire. Bon, c'est bien gentil de proclamer le peuple d'Israël, le peuple juif, etc. Mais Chazal dit que nous ne sommes pas un peuple. Tant que cette sinatrina n'est pas réparée. Alors, je vous ai dit au début qu'il y a une différence entre Shlichut et Gerushin. La Shlichut, c'est comme la Shania, quelqu'un qui a le jour de la mer. Il va revenir pour faire son rapport après avoir fait ce qu'il avait à faire. Alors que Gerushin, c'est quelqu'un qui est renvoyé. Il n'y a pas de boucle à boucler, c'est définitif. Donc, beaucoup, ok, la Rech est à Adam. Donc, beaucoup, il a fait des Gerushin avec Adam Arishon. Au début, l'homme est créé, a été placé dans le Gan Eden, le Ovda ou le Shomra. Il fallait travailler et garder ces deux choses. Il dit le Ovda c'est Mitzvot Aseh, le Shomra Mitzvot Lo Ta'aseh du Gan Eden. Et là, dans cette situation-là, c'était facile de servir Hachem. Il y avait à la fois la jouissance du Gan Eden, de cette proximité avec Hachem. Il était né, comme on dit, Mizniva Shrina, de l'éclat de la présence divine. Donc il pouvait facilement servir Hachem à leur cache. Mais quand il a fauté, il a dégringolé, il n'était plus à ce niveau-là. Et d'une certaine manière, il ne pouvait plus, dans cette situation-là, arriver à la perfection à laquelle il devait arriver, sauf après un énorme travail. Et le travail, ça va être justement de travailler sur le Amal HaTorah et dans les mitzvot, c'est-à-dire les efforts dans l'étude de la Torah et dans toutes les mitzvot. On va déployer tout le Oda ou le Shomra en 248 et 365 mitzvot, et puis il y a l'étude de la Torah. S'il fait ça, alors il peut revenir en quelque sorte. Il peut transformer son Gerushin en Shiluchin. Les Israël qui sont dans la même situation, à l'échelle collective, donc Adam Arishon, voilà, on l'a dit souvent. Donc eux aussi, il y a ces deux aspects. Le Kurban Abayit, il y avait donc Shiluchin et Gerushin. Comme chez Adam Arishon. Et de la même manière que chez Adam Arishon, il y a une possibilité de transformer le Gerushin en Shiluchin. ויאמר השם אלוקים, הן האדם היה כאחד ממנו, סין מומש, לדעת טוב ורע, ואתה בן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. השם מגולה בסלח. ושלחהו השם אלוקים מגן עדן, השם להום וויה, שליחות, מגן עדן, והשם אלוקים, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, עליי חוויה יותר, נוציא לפיסו, ויגרש את האדם אלא דיבורסי, זה לא? כי למי אופוף דגן עדן לפעמי קרובים, לפעמי זונג, שיבל בן, אופת, אבק זה לאט החרב המתהפכת, לזעם מתפיינת, הוא לשמור את דרך את החיים. הוא גרדה, הוא מפשה אדם d'accéder directement au Esaïe. Donc on voit ces deux verbes en fait. Donc c'est un peu contradictoire parce que s'il a dit Gerushin, alors pourquoi ça marche chez le prix? Chez le prix, ça a l'air de peut revenir, et Gerushin, ça ne peut pas revenir. En fait, c'est Gerushin si tu ne fais rien. Mais il y a un chemin à faire. Il y a quelque chose à faire pour faire primer les Shilohites sur le Gerushin. Donc le travail, c'est l'ishmor et tzderet et tzareth. Il doit garder, c'est-à-dire tenir à l'ishmor, c'est-à-dire préserver, garder le tzderet et tzareth. C'est-à-dire par la avoda, par son travail, il peut arranger des choses. Chazal parle de ce Derech Etz Chaim. Dans le Midrash, ils disent qu'est-ce que c'est. Oto ha'etz shaya kol ha'ochel mimenu chay. Cet arbre dont tout celui qui en mangeait vivrait, istiro à Kadosh Baruch Hu benatan lanu torato ou et sahay. Le Midrash dit cet arbre à Kadosh Baruch Hu l'a caché. Et il nous a donné sa Torah qui est, elle, qualifiée de et sahay, l'arbre de la vie. Marqué, Israël, il y a la marque du beau, etc. Non, c'est qu'il bat, pardon. Ça veut dire quoi? Lorsque l'homme voit cette Torah, à partir d'elle, il voit la sagesse divine, il y trouve les règles, les mitzvot, les mishpatim, tzadikim, les sharim. Et immédiatement, en voyant clairement, il prend conscience de où il en est et il s'en occupe. Et il accède à la vie dans ce monde-ci et dans le monde à venir. C'est marqué dans, on va lire ce peu. Marqué, il s'est fait effectivement, cette Torah, elle est là pour nous faire vivre. Donc, après ce qu'on voit là, Ishmo, garder le Derer et Sahaïm, c'est-à-dire garder la Torah qui a fait Esraïm. Par exemple, la Torah a fait Esraïm. Il reste encore un point à faire, mais il y a un point à vérifier, c'est qu'est-ce que Esraïm, on comprend c'est la Torah, mais qu'est-ce que c'est Derech Esraïm? Qu'est-ce que c'est ce chemin? C'est si la Kavana c'est la Torah, alors le texte aurait pu dire simplement Lishmor et Ezra Fahim. Gardez la Torah. Alors, dans un Yakut, Shimoni, il va égarer chez Adam. Là, il explique comme ça. La Kavav Dorot, Kadma Derech Eretz, c'est la Torah. Le Derech Eretz, a précédé la Torah de 26 générations. 26 générations, la 26e génération, c'est Moshe Rabbeinu, c'est la génération où on a reçu la Torah. Et donc, 20 générations avant, c'est Adam Arishon. Et là, le Yalkut dit, c'est marqué, l'Ishmoret, Deret, Et, Tachayim, Deret, Zed, Deret, Eret. Et à Hapa, Et, Tachayim, Zed, Torah. Et là, on apprend le fameux Adal, que Deret, Eret, Tadma, la Torah. Que Deret, Eret, a précédé la Torah. Qu'est-ce que c'est Derech Eretz? Maintenant on a gagné, mais on déplace le problème. Ce Derech Eretz qui a été donné donc à Adam Arishon a gardé, puisque Derech et Safaim c'est Derech Eretz. Pourquoi ce Derech Eretz précède la Torah? Précède la Torah pas au sens où il aurait été créé avant, il a été donné avant. La Torah elle a précédé la création du monde de bien de très longtemps. Pourquoi d'avoir créé la Torah? Derech Eretz a été donné à Adam, donc c'est-à-dire 26 générations après, avant que la Torah n'ait été donnée. C'est pas que dans l'absolu Derech Eretz a été créé par Hachem avant la Torah. Rabbeinu Yonah, dans son commentaire sur le Kiavot, sur la fameuse Mishnah de Im Ein Derech Eretz Ein Torah, s'il n'y a pas de Derech Eretz, il n'y aura pas de Torah. Rabbeinu Yonah dit Shetzarim Trila Lesaken Atzmo de Midot. Vous baisez Tishkon à Torah à la. שאיננה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות. La Torah ne peut pas résider chez quelqu'un qui n'a pas de bonnes midot. Donc, ayez présent à l'esprit ce que le Gaon a dit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas étudier la Torah. Ce n'est pas la Torah, c'est pas de la Torah. Le Gaon a dit. Donc, ils ont étudié la Torah. Mais c'était pour se faire un nom. Étudier la Torah pour la Torah, c'est un mishmash de Torah. Donc, ça n'est pas possible, la Torah ne réside pas chez quelqu'un qui n'a pas travaillé ses midot. Rabbi Nuyona. Rabbi Nuyona, c'est pas du Ramban, c'est au Moyen-Âge. Chazal appelle donc les midot d'Eretz. Et le Rambam dans l'Hilkhot Deot aussi utilise le même terme. Sur ce pasouk de Shomru d'Eretz Hashem, le Rambam dit Ketzad yargil adam atzmo de Deot Elu. Comment est-ce que l'homme s'habitue à ce qu'il appelle ça, les midot qu'il appelle les Deot? C'est midot, si vous voulez. Il dit parce que ces midot-là, c'est la voie moyenne. Ramam, c'est un adepte de la voie moyenne. Les noms de ces midot, quand on a ces bonnes midot, ça veut dire qu'on a pris la voie moyenne dans ces midot. Et c'est ça qu'on doit emprunter, cette voie-là qu'on a l'obligation d'emprunter. C'est ça qu'on appelle des relations. Il dit, que vous, et ceci, vous venez parce qu'il Vehi, chez la main d'Abraham Avinu, le banal. Abraham Avinu a été choisi par Hachem. Hachem a dit, je le choisis qui est datif, je le connais. Le man Hachem, il s'appelle banal, vet beto acharav, le chambou de l'Hachem. Je le choisis parce que il transmettra le derrière Hachem à sa famille. Il va enseigner ça à sa famille. Abraham a été choisi par Hachem pour cette raison-là. Si vous voulez, il ne peut pas y avoir de Torah si cette raison-là, si ceci n'est pas réalisé, effectivement, de facto, Abraham n'a plus être Abraham Avinu, il n'a plus être au début d'une chaîne, etc., qui nous a amené à être jusqu'ici, que parce qu'il est capable de transmettre des références, il transmet le dernier chaîne en question. Travaille sur les mitotes comme préalable incontournable à l'étude de la Torah. Pour que ça soit vraiment de la Torah. Les midot, le Gemara dit dans Mishneh que Amidot aime morim l'adam et adzeret, cher Yelefa. Les midot sont des auto-indicateurs pour indiquer aux hommes le chemin qu'ils doivent prendre. C'est-à-dire qu'il faut que les midot nous incitent à prendre le bon chemin, prendre le chemin de la Torah. On a besoin de ces incitations. Sinon, si vous voulez, ça ne vient pas de nous. Les midot, c'est nous. Donc, si ça ne vient pas de nous, la Torah qu'on va étudier, alors ça sera une Torah pour se faire un nom. Le problème, c'est effectivement que cette Torah, elle est un lien avec nous. Les midot façonnent l'homme de telle sorte qu'il aille vers la Torah. Il faut travailler ces midot pour qu'elles nous façonnent dans la bonne direction. C'est ça que Chazal veut dire, que le Derech Eretz a précédé la Torah. Le don du Dérèteret, c'était le don de la Torah de 26 générations. Puisque l'homme, en fait, est guidé par ses midot, elle lui indique le chemin qu'il doit prendre. Pour que l'homme accomplisse, vive selon la Torah, il faut qu'il arrange d'abord ses midot. Sinon, elles ne lui diront rien de correct. Donc les midot doivent être arrangées avant l'étude de la Torah. Parce que elle façonne, comme je vous ai dit, l'homme. Il y a une notion de cli, il y a une notion d'être un récipient capable de recevoir la Torah. La Kadosh Baruch Hu donne énormément, mais il ne donne qu'en fonction du récipient que nous sommes pour recevoir ce qu'il nous a donné. Ce n'est pas la semeuse, je sème à tout vent et tu prends ce que tu peux. Hachem ne donne que en fonction de la capacité de recevoir. Ça a été donné effectivement à Adam Arichon lorsqu'il était chassé du Gan Eden. Parce que son tikkun, sa réparation, son arrangement, c'est justement de garder la Torah, qui est appelée Ezraïm. Et pour cela, il faut qu'il fasse un travail sur ses midotes. Et ce modèle-là, en quelque sorte, qui a été donné à Adam Arichon, c'est celui que nous devons nous aussi appliquer. Il n'y a pas 36 modèles ici. Avec Ayn Ra'a, on ne peut pas recevoir un tikkun. Si on ne veut pas le bien de l'autre, il n'y a pas de temps. Et ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas être quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah. Ce n'est pas de la Torah. C'est la science du judaïsme ou autre chose, mais ce n'est pas de la Torah. C'est parce que si la finale, c'est justement, se lèvera, ça pèse autant que les avérotes cardinales, pour parler comme ça. Ça détruit aussi bien le Beth Amikdash que les plus grandes avérotes. Parce qu'il n'y a pas de place pour la Torah. On est en principe dans l'Ikrita de Mishra, en tout cas ce qu'on nous dit depuis longtemps. On sait que les temps qui précèdent l'Ikrita de Mishra, c'est un temps dont la Gemara dit qu'effectivement tout va aller de travers, les choses vont du mauvais côté. Mais c'est presque un signe qu'on va vers une galoute. Les douleurs de l'enfantement, en quelque sorte, deviennent plus aiguës. Pardon ? Ah, j'ai dit la. Alors c'est un programme. Un programme, mais le problème c'est qu'il est impératif. On n'a pas les moyens. On n'a pas le. Il n'y a pas de plan B. C'est le plan A, il n'y a pas de plan B.
Cool.